Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette première soirée du nouveau cycle Profession Reporter en partenariat avec le prix Albert Londres. Emmanuel Payen, qui a co-organisé cette soirée, s'excuse, elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Alors pourquoi ce nouveau cycle Profession Reporter avec le prix Albert Londres ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un prolongement de l'activité quotidienne de la BPI en matière d'accès à l'information et d'actualité. C'est aussi la mission de la BPI, une mission d'éducation aux médias et à l'information. Et aussi parce que notre centre d'intérêt, c'est le récit journalistique. Et Albert Londres est une figure emblématique du reportage et de ce récit. Donc nous remercions le prix Albert Londres et son président Hervé Brusini pour ce partenariat. Hervé qui va animer cette soirée. Le prix Albert Londres récompense un jeune journaliste pour son travail. Et en 2020, le lauréat est Alan Caval pour une série de reportages parus dans Le Monde sur la Syrie. Donc Alan Caval nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et nous l'en remercions également. Et je vous laisse discuter et à très bientôt.
Merci. Bonsoir. Jérôme. Bonsoir. Énorme merci de votre présence et de l'occasion qui nous est donnée d'expliquer un peu ce qu'est le travail du reportage du journaliste de terrain. En ces temps où, lorsqu'on parle d'information, on parle d'abord de fake news, de fausses nouvelles, ben nous, on va faire le contraire, on va parler de la nouvelle, de l'info. Après tout, on n'explique pas l'histoire de la peinture que par l'histoire des faussaires. On peut aussi parler de la peinture. Et donc, je suis très heureux de te recevoir.
Merci, Hervé.
Toi qui as un
très heureux d'être là, merci.
De l'info. Et je voudrais te demander d'abord, tout simplement, parce qu'on voit bien comment tu es là. Il y a un an, tu étais gravement blessé au Haut-Karabakh.
Oui.
Et comment tu vas ?
Très bien. Presque vertical. Avec des béquilles pour l'instant, mais pas pour longtemps.
Qu'est-ce qui t'était arrivé, en un mot ?
Ah bah écoute, j'ai tenté de faire un reportage au Haut-Karabakh. Je suis arrivé quelques jours après le début des hostilités, à savoir une offensive azerbaïdjanaise sur cette région qui était à l'époque totalement contrôlée par des forces arméniennes ou pro-arméniennes. Et effectivement, je me suis rendu sur place pour mon journal Le Monde, avec le photographe Raphaël Yarobzadeh. Et à la fin d'un reportage compliqué par le Covid, des liaisons aériennes un peu hasardeuses, et un certain nombre de difficultés, nous sommes arrivés finalement à proximité du front. C'était le 1er octobre dernier. Mmh. Et tandis que nous venions d'achever un entretien dans le jardin d'une maison qui avait été frappée la veille par un missile Grad, des missiles d'artillerie issus de l'arsenal soviétique, ou en tout cas des fabrications soviétiques, eh bien nous avons entendu le bruit caractéristique que font ces missiles lorsqu'ils sont tirés. Et nous avons compris qu'un bombardement était en cours, comme la veille, sauf que ce jour-là, nous étions sur place. Et nous avons été donc pris dans ce bombardement. Et hélas, un des accompagnateurs qui était avec nous et a trouvé la mort lors de ce bombardement, quelqu'un qui était un habitant et un policier du coin, qui voulait montrer un petit peu, essayer de contribuer justement à ce que l'information sorte sur la situation dans laquelle se trouvait sa petite ville de Martouni. Eh bien, il a été tué. Il est mort sur le coup, ou dans les instants qui ont suivi le bombardement. Et moi, comme Raphaël, avons eu la chance d'être secouru par une très longue chaîne humaine qui est allée de nos confrères et consoeurs sur le terrain, des habitants de cette localité, des médecins arméniens qui ont pu nous donner les premiers secours. Et cette chaîne humaine est allée jusqu'à Paris avec les autorités françaises et les médecins de la Salpêtrière qui nous ont reçus 36 heures plus tard pour, là encore, continuer à nous sauver la vie. Et j'ai été tiré d'affaire, effectivement, assez rapidement grâce à eux, et c'est maintenant au terme d'une longue convalescence que je fête mon retour au travail ici parmi vous, avec toi Hervé, et avec toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de se déplacer pour nous écouter discuter ce soir. Et merci à vous.
Bah, écoute, pour notre plus grand plaisir, je sais que c'est presque aujourd'hui que tu reprends un peu
quasiment
ton activité.
Un
je
an
trouve
après.
Ça symboliquement fort de parler comme ça du grand reportage et de ce qui t'a valu le prix Albert Londres. Alors, tu sais que le prix Albert Londres, en fait, nous en ignorons les critères. C'est stupéfiant, mais c'est un peu vrai. Il n'y a pas de table de la loi. En fait, c'est au regard d'Albert Londres, au regard de son activité, de ce qu'il a pu dire de son métier, que les jurys, depuis maintenant 1933, décernent ce prix Albert Londres. Alors, je me suis dit, mais être avec Alan Cavall, c'est peut-être, en fait, revisiter ces critères avec lui via Albert Londres lui-même.
Très bien.
Et alors, ce premier critère, c'est celui de la curiosité, celui de la disponibilité, ce qui te fait partir, aller, décoller immédiatement sur le terrain. Et par exemple, je prendrai un extrait d'Albert, dont Le Juif errant est arrivé. Il raconte « Quand au début d'un beau soir, un ami poussa ma porte et me jeta, on tue des Juifs à Jérusalem, je bondis hors de mon encrier. » L'ami me tendit un journal, on les tuait effectivement, on les tuait même en avance sur ce qui avait été dit. Alors j'envoyai promener mon porte-plume, je pris mon chapeau, le train et le bateau. Est-ce que tu vis comme ça, toi, quand tu vois qu'il y a un drame qui est sur le point de se nouer, tu décolles, tu y vas et tu balances l'encrier ?
Alors la dernière fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas réussi. Mais c'est un peu comme ça, si tu veux, que j'ai voulu commencer à faire ce métier.
Ah.
Dans le sens où, si tu veux, moi je me souviens que mon premier reportage, le tout premier vraiment reportage, qui est d'ailleurs un reportage qui n'a jamais vraiment été publié, si tu veux, c'est un reportage par petits morceaux à droite à gauche, mais qui reste dans ma mémoire comme un acte fondateur et ce qui m'a fait continuer à faire ce métier. Je me souviens très bien quand il a commencé, c'était sur un bout de cuisine dans un appartement du centre de Paris où je dormais à ce moment-là et où je vois que les yézidis du Sinjar, dans le nord de l'Irak, étaient attaqués par l'État islamique. Et que les premiers rapports massacres, les premières informations sur des fosses communes, sur le fait que des personnes soient réduites en esclavage, des femmes et des enfants, commencer à filtrer. Et effectivement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le plus vite possible être sur place. Alors, on ne prend plus le train et le bateau pour aller en reportage comme on pouvait le faire à l'époque d'Albert Londres. Mais au plus vite, le RER, puis l'avion, puis ensuite le taxi, la voiture. Et puis, on trouve une occasion, une possibilité de traverser une frontière, d'aller en Syrie pour rentrer à nouveau en Irak, traverser un désert, des tempêtes de sable, des espèces de vagues pick-up qui, dans un mirage, apparaissent comme une menace potentielle et puis disparaissent à nouveau sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus, des éclats d'obus, des explosions d'obus au loin,
oui,
dont on ignore par qui elles sont tirées, par qui ces obus sont tirés ou vers qui. Et puis, au bout de la route, cette montagne de Sinjar, quelques vieux messieurs avec munis de pétoirs antique pour la défendre et un massacre en cours. Alors, la différence, c'est que la raison pour laquelle je me suis dirigé tout à fait cessante vers cet endroit pour faire le métier que je ne faisais pas encore, mais que j'allais apprendre, c'est parce que je connaissais cet endroit.
Ta curiosité était cultivée, si j'ose dire.
En quelque sorte. En tout cas, ce n'était pas un élan vers l'inconnu. C'était un élan vers quelque chose de connu,
ouais,
qui était menacé.
Ouais.
Voilà. Parce qu'il se trouve que cette région de Sinjar, qui, si vous ne la situez pas, se trouve au nord de l'Irak,
ouais,
c'est une montagne comme ça qui est au milieu de la plaine désertique, ou quasi désertique, en tout cas en été, comme c'était le cas lors des massacres d'août 2014, dans la plaine du nord de l'Irak, qui est peuplée donc de yézidis, cette population non musulmane qui a été persécutée par l'État islamique. Et je l'avais visité avant les massacres, parce que je m'intéressais à cet endroit. Et qu'en fait, moi, je suis venu au journalisme par un endroit qui m'intéressait et j'aurais pu faire d'autres professions, j'aurais pu exercer une autre profession que celle-ci, peut-être. Parce que c'est via le lieu et avec la volonté de labourer ce lieu, de le comprendre le plus en profondeur possible, d'en apprendre, même bien que bon, je le regrette imparfaitement, les langues, d'en connaître les gens, d'en connaître les habitudes, d'en connaître un tout petit peu l'histoire, d'avoir la volonté vraiment de labourer, de connaître un lieu que j'en suis venu à vouloir raconter le réel en général. Et je ne serais jamais parti en reportage ce jour-là et j'aurais jamais commencé à apprendre à faire le métier que j'exerce aujourd'hui, malgré évidemment une petite pause en ce moment, si j'avais pas eu d'abord une curiosité assez, puisque tu parlais de curiosité, assez orientée vers un lieu qui, par ma biographie personnelle, par ma généalogie, si tu veux, m'était lié. Et c'est en partant de ce particulier-là qu'ensuite, j'ai pu prétendre à un regard plus général sur les choses et j'ai pu apprendre mon métier et ensuite l'exercer sur d'autres terrains.
J'entends. Il s'agit de terrain, il s'agit de voyage. Et donc, on voit bien que d'emblée, à l'époque d'Albert, le fait d'aller sur le terrain conditionne même l'écriture. On ne peut pas faire du reportage, ça paraît comme ça un truisme, alors que ça ne l'est plus vraiment, parce que on peut voir et lire des reportages qui peuvent avoir été rédigés depuis Paris, en pièces détachées rassemblées, et je ne le critique pas, mais c'est un autre exercice, et parfois c'est écrit récit. Mais l'exercice du reportage, c'est aller sur le terrain pour voir et ensuite témoigner. Voir, c'est une condition première du reportage pour toi aussi ?
Pour moi, le reportage, c'est donner à voir. Et pour donner à voir, il faudrait avoir déjà vu soi-même.
Oui.
Et pas seulement vu. Il n'y a pas que ce sens-là, à mon sens, même si, oui, évidemment, c'est le plus fort. Parce que où amener, comment amener le lecteur, la lectrice vers une réalité à laquelle il ou elle n'a pas accès depuis Paris, depuis les capitales vers lesquelles on envoie nos papiers ou vers ailleurs. Si notre but, c'est de faire comprendre, c'est surtout de faire sentir, de faire voir, d'apporter une dimension, à mon sens, sensible à une réalité politique et historique donnée.
Donc tu passes par les sens, et on va dire ce mot terrible aujourd'hui, dévastateur, l'émotion, pour arriver à une compréhension.
Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a dans le journalisme la question du fait, la question des choses factuelles, des choses qui sont vérifiables. Et puis, il y a aussi la confiance qu'on peut donner à un ou une journaliste pour raconter ce qu'il y a entre les faits, à savoir le réel, la réalité d'une expérience humaine qu'il faudrait faire partager, celle d'une personne. Comment faire comprendre à un lecteur ou à une lectrice dont le quotidien se déroule dans une capitale en paix ce que c'est que la destruction d'une maison? Oui. Est-ce qu'on va lui parler de la taille en mètres de la maison? Est-ce qu'on va lui parler de sa superficie? Est-ce qu'on va lui parler du poids des gravats? Ou est-ce qu'on va lui parler de cette petite photo de mariage qu'on aperçoit depuis la rue à travers un mur dévasté par une bombe? Ou de ce jouet d'enfant abandonné dans des ruines au milieu de douilles d'étuis de balles de Kalachnikov ou de mitrailleuse? Ben non, on va lui parler de ces deuxièmes images-là, de ces images que j'ai évoquées dans un deuxième temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas des choses qui sont... Bien sûr qu'on va avoir, on va utiliser les émotions, mais il faut que... Pour faire comprendre une réalité humaine, pour donner à sentir une expérience humaine, il faut passer par ces émotions. Parce que notre rôle, à mon sens, en tant que reporter, c'est justement de rappeler que l'expérience humaine, elle est universelle. Et que donc, la guerre dans ce bout de quartier d'une ville turque en 2015-2016, lors des insurrections, d'une ville kurde, pardon, de Turquie, en 2015-2016, lors des insurrections kurdes qui ont été matées dans le sang par le pouvoir turc, eh bien, elle ne veut rien dire si on ne passe pas par la photo de mariage et par le jouet abandonné.
Alors, on va regarder, je vais demander à Renaud de nous projeter le papier, un des papiers qui t'a valu ce prix, et que je trouve assez emblématique de ton activité journalistique, y compris voilà, ce travail de photographie absolument remarquable de Laurence G.
C'est voilà, ça Laurence G., ma collègue et amie Laurence G., qui est une remarquable photojournaliste et avec qui nous faisons par des biais différents et par des médias différents, par des outils différents, certes, mais nous faisons le même métier, avec qui j'ai fait notamment ce reportage en Syrie et avec qui j'ai beaucoup travaillé ailleurs, en Irak et dans d'autres endroits de Syrie dans ces années-là. Ouais.
Alors, je voudrais te demander une première chose. On va se concentrer un peu sur ce papier, voir comment il est écrit, structuré, puisqu'il y a à côté un témoignage d'un des détenus, Mourad, incroyable. Et donc, d'abord, ce premier point, au moment où toi, tu veux arriver à cette prison, comment tu fais pour y arriver? C'est simple, on dit je veux y aller et puis pof, on t'ouvre parce que voilà, c'est Alan Caval du Monde. Ou est-ce que tu es escorté? Est-ce que c'est compliqué? Quelles sont les conditions d'accès?
Alors, il faut savoir que quand on est journaliste, reporter, on est souvent tributaire de forces qui nous dépassent, qui sont les forces des milices, les forces des États, les forces des armées, les forces de ceux qui tiennent finalement le rapport de force sur une zone donnée, puisque pour moi, chaque terrain est d'abord un rapport de force qu'on va essayer de raconter. Et donc, il va falloir utiliser parfois les forces contraires qui s'affrontent pour pouvoir faire notre métier, ou en tout cas tenter de rentrer dans les interstices qui nous sont ouverts. Et là, en l'occurrence, et ça c'est quelque chose qui est expliqué dans l'article, parce que oui, je pense qu'il est important aussi de rendre compte aux lecteurs des circonstances qui ont permis la de faire ou de ne pas faire certaines choses, c'est que là, pour le coup, il y a une volonté de la part des autorités kurdes, oui, qui contrôlent cette prison, de faire savoir à leurs alliés occidentaux, la France comprise, qui viennent de les lâcher en race campagne face à une offensive turque dans le nord de la Syrie, qu'ils ont toujours sur les bras un certain nombre de détenus djihadistes issus du dernier carré de l'État islamique, et que ces détenus sont pour une large partie de nationalité européenne, et qu'il serait bien dommage que, devant défendre leur territoire face à l'offensive turque, ils perdent un petit peu le contrôle des prisons. Donc il y a ce narratif que veulent faire passer les autorités kurdes.
Menaçant.
Relativement menaçant vis-à-vis des capitales européennes et occidentales, notamment Paris, hein, même si Paris a subi plus qu'agi sur cette question du retrait occidental du nord de la Syrie. Et cette volonté, du coup, de faire entrer, d'ouvrir des portes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertes. Sachant que l'accès à l'information, et j'ai pu en faire l'expérience, est quelque chose qui peut rentrer dans ce rapport de force. Par exemple, un an auparavant, peut-être un peu moins, j'avais la volonté d'entrer dans un camp de déplacer où se trouvaient des familles, des femmes françaises et leurs enfants, femmes qui avaient rejoint l'État islamique avec leur mari et qui avaient été ensuite capturées, séparées de leur mari, emprisonnées, donc contraintes à vivre dans des camps. J'avais même accompagné deux parents français à la recherche de leurs petits-enfants. Et il est paru assez clair que les autorités kurdes nous ont refusé l'accès au camp à nous qui étions français, parce que nous étions français, et ce, pour complaire à l'État français, leur partenaire. Oui. Voilà. Donc on voit bien, et ça se raconte aussi, c'est une information. Le simple fait de ne pas pouvoir rentrer est une information, il faut expliquer pourquoi. Et il faut essayer de vérifier ensuite avec d'autres sources si c'est bien cette raison. En l'occurrence, ça l'était. Et par opposition, que lorsque justement il y a cette volonté de montrer quelque chose, eh ben, on a accès, on a un interstice du réel. Donc forcément, on est tributaire de forces qui nous dépassent, d'intérêts qui nous dépassent, et je pense qu'il est toujours assez important de les montrer, de faire un état des lieux de ces forces qui déterminent notre champ d'action, et surtout de profiter de la brèche qu'on peut voir s'ouvrir pour attraper du réel, raconter du réel, et le faire, encore une fois, par le biais d'une description sensible des choses et pas simplement factuelle.
Donc cette description sensible, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu en donnes les clés qui la conditionnent.
Je pense que c'est important. Oui. Je pense que ces deux aspects sont importants et je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière, si on veut, la condition du reporter, l'idéal type du reporter, oui. Comme le type qui va aller, ou la personne qui va aller briser des murs, casser des portes,
avec
pour rentrer
le gilet
dans, avec le gilet multipoche et puis le truc. Non, il faut expliquer dans quelle circonstances et avec quelles contraintes on opère et on travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel dans le sens où nos lecteurs et nos lectrices ne sont pas forcément au courant de ce que c'est que la fabrique du journalisme, que ce que c'est que la fabrique du journalisme sur des terrains qui peuvent paraître exotiques, qui peuvent paraître lointains et donc du coup tout est permis alors qu'en fait c'est pas du tout le cas et souvent c'est très normé et c'est très réglementé. Mmh. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on va avoir des images un peu impressionnantes d'une colonne de fumée qui s'élève à l'horizon ou d'un char qui passe qu'on est au Far West. Il y a des choses, on est toujours contraint, on est toujours soumis à ces forces-là. Et je pense que ça relève de notre travail aussi de raconter ces déterminants-là.
Alors, raconter l'émotion, la sensibilité, cette dimension d'une pédagogie interne du papier par le papier lui-même.
Dans la mesure du possible.
Dans la mesure du possible. Tout ça passe par les mots, bien sûr, par le style, par l'écriture. Alors, si tu veux bien, je vais reciter un autre texte d'Albert et le rapprocher du tien, parce que, voilà, quand Albert Londres décrit le bagne, voilà ce qu'il est en train de dire. J'ai trouvé qu'il y avait comme ça quelques moment de proximité dans le choix des mots, dans la rythmique même de ton écriture. Londres écrit « Ils sont 100 hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. La brousse est devant eux, semblable à un mur. Ce n'est pas eux qui abattront le mur, c'est le mur qui les aura. » Ça, c'est Londres. Et puis à toi. Tu commences ce papier de la manière suivante. La mort a une odeur, le désespoir aussi. Son effluve se mêle à celle de la maladie, de la dysenterie, de la chair humaine que la vie peu à peu abandonne, quand la porte de la cellule réservée aux malades de cette prison pour membres de l'organisation État islamique du nord-est de la Syrie, on voit l'info là, s'ouvre sur d'innombrables détenus en combinaison orange, entassés les uns sur les autres sur toute la superficie d'une pièce de la taille d'un hangar. C'est bien cette odeur-là qui étreint la poitrine. Et donc, je trouve qu'il y a la même économie. Comment tu fais pour écrire comme ça?
Alors, déjà, ce qui est important pour moi d'ajouter par rapport à ce que je disais auparavant, c'est que la raison pour laquelle on a eu accès à ce truc, c'est parce que les autorités locales voulaient qu'on y ait accès pour une raison particulière. Sauf que moi, j'ai utilisé cet accès pour raconter une autre histoire.
Oui.
À savoir l'histoire suivante, qui n'est pas une histoire, qui est la réalité, c'est qu'il y a des mouroirs dans le nord-est de la Syrie,
oui.
Où les puissances occidentales, et en premier lieu la France, se débarrassent d'un problème qu'ils ne veulent pas voir.
On va y revenir.
Et ça, on va y revenir. Donc ça, c'est juste pour le contexte. Ensuite, c'est tout simplement qu'il y a un moment où la journée étant finie, le reportage étant derrière vous, et qu'on rentre, en l'occurrence, dans l'hôtel lugubre d'un faubourg d'une ville de frontière qui s'appelle Kamishli, en ayant vu ça et qu'on se retrouve devant son écran d'ordinateur, et ben il faut essayer d'aller retrouver le moment de vérité,
mm-hmm.
le moment où la vérité mm-hmm. est apparue
Tétrique.
Dans ce reportage et le moment voilà où ça tu prends un coup de poing dans le ventre en fait,
ouais.
Parce que ce coup de poing dans le ventre que tu as pris, il faut que tu le donnes,
ouais.
à ton lecteur, à ta lectrice.
Mais qu'est-ce donc, que tu as fait? Tu as pris des notes pendant...
Non.
Tu n'as pas pris de notes?
Non. Si, j'ai pris des notes au cours des propos des personnes.
Oui, des propos. Voilà. Mais globalement, non. C'est une sorte de... Tu revis la situation de ta visite.
Voilà. Il ne faut pas redonner le coup de poing dans le ventre. C'est pas vrai. Il faut le faire sentir ce que nous, on a senti. Oui. On n'est pas là pour, évidemment, agresser le lecteur. Mais
bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réalité qui vous attrape. Et il faut dire... être le relais de cette réalité-là auquel le lecteur, la lectrice n'aura pas accès. Et donc, évidemment, il faut trouver du coup le moment où on comprend, où il y a cette espèce de clé qui apparaît dans la réalité dont on est le témoin. Mmh. Et pour moi, elle apparaît au moment où on ouvre cette porte et où là... Il y a comme quelque chose qui se casse. Il y a une brèche, si on veut, dans le réel qui s'ouvre. Et il y a une réalité autre qui se révèle devant moi. Il y a quelque chose, il y a une situation que j'ai jamais vue autrement, que j'ai jamais vue ailleurs, qui me frappe et qui me frappe les yeux, qui me frappe le cœur, qui me frappe. Les tripes, et je sais que c'est ce moment-là. Et qu'il y a cette impression-là, cette émotion-là, cette vérité-là, et qu'il va falloir en faire, à partir de ça, il va falloir trouver les mots.
Oui.
Les mots qui pourront la relayer. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces mots?
Oui.
Mais je pense qu'on ne les trouve pas sur le moment, en fait. Ces mots, ils se façonnent, en fait, tout au long d'une carrière, pas d'une carrière ou d'un début de carrière, mais à travers des lectures, à travers des choses auxquelles on a réfléchi, à travers des choses qu'on a vécues, qu'on a vues dans d'autres contextes, à travers des romans qu'on a pu lire, à travers d'autres reportages qu'on a pu faire ou qu'on a pu lire, à travers la littérature, à travers le cinéma même parfois. Et c'est en fait, on porte en soi un certain nombre de correspondances entre des émotions, des situations et le verbe, qui peuvent faire une palette dans laquelle on va aller puiser pour raconter les choses. Par exemple, je sais que ce reportage n'aurait pas été écrit de la même manière si je n'avais pas lu un certain nombre d'ouvrages, comme Si c'est un homme de Primo Levi, par exemple. Oui. Je sais que je l'aurais écrit autrement si je n'avais pas réfléchi à ces questions-là, même dans ma prime jeunesse. Je sais qu'il y a un extrait de ce reportage sur les faces sans visage que je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas été un peu sensibilisé dans ma prime jeunesse à l'œuvre de Lévinas, par exemple. Et donc, c'est cet ensemble de bagages. Et c'est aussi pour ça que le reportage, il se fait partout et tout le temps.
Oui.
C'est qu'en fait, c'est pas juste le terrain et un truc. Il faut savoir non seulement lire le terrain, lire le regard, comprendre ce que les gens vous disent, mais surtout, il faut avoir tout le temps, et ça, c'est en permanence, cette espèce de vigilance et d'attention qui est aux mots et aux idées et aux images. Voilà. Et c'est dans cette espèce de monde intérieur qu'on peut puiser les phrases, les mots qui permettront de raconter une expérience qu'on a vécue.
Et donc en sortent les mots, en sortent une rythmique.
Aussi, bien sûr, mais ça relève, c'est quelque chose qui relève pas nécessairement d'une technique, si, c'est une technique, mais c'est surtout une pratique, quelque chose d'artisanal, en fait. On ne peut pas décomposer ce geste de manière extrêmement précise, de manière extrêmement, scientifique et précise. Je pense que c'est quelque chose qui se construit petit à petit tout au long de la vie.
Alors, la construction précisément du papier, si je comprends bien, tu as effectivement les notes qui sont relatives aux propos des uns et des autres, mais quand tu te lances, est-ce que tu te lances avec déjà l'idée de la structure générale qui est dans ta tête, ou est-ce que tu pars, et puis après on va voir en fonction des éléments de témoignage que j'ai pu collecter, la manière dont la chose va prendre forme presque comme ça, naturellement, dans l'écriture.
Alors, je dirais qu'il y a certains reportages qui, et celui-là en fait partie, qui s'imposent à vous. Ça veut dire qu'en fait, on commence, Et assez naturellement, une séquence, si je puis dire, en amène une autre.
Ouais.
Et que petit à petit, on voit à peu près au milieu de l'écriture où ça va se terminer. Ça, c'est des reportages, effectivement, qui sont des reportages qu'on écrit sur le vif, des reportages qu'on écrit de manière, enfin, d'un seul trait, en fait.
C'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé pour celui-ci, qui était écrit dans les heures qu'on suivit le travail de terrain, en quelque sorte. Ouais. Ça a été le cas pour d'autres reportages que j'ai pu faire vraiment aussi sur le vif, en arrivant dans un endroit qui était, par exemple, attaqué par les forces turques, en l'occurrence quelques semaines auparavant. Ça, c'est des choses où il faut raconter très, très vite. Et donc là, ça vraiment, ça s'impose. Et quand on a une certaine pratique, ça coule plus ou moins tout seul.
Ouais.
Parce qu'on a une idée précise de ce qu'on va dire. Enfin, en tout cas, on a une impression extrêmement forte qui va imposer d'elle-même une structure.
Ouais. Alors ça veut dire que combien de temps tu es resté sur place là ?
J'ai dû rester sur place 3 heures, je pense, 3 à 4 heures.
Donc ça pourrait choquer des gens qui se diraient, mais enfin il est resté 3 heures, qu'est-ce que ça veut dire, une telle brièveté ?
Ouais.
Ça veut dire qu'en fait cette brièveté n'exclut pas la gravité, le background, le compte-rendu puissant de ce qu'on a vu, et le fait de saisir son auditoire. La brièveté n'engendre pas forcément la médiocrité.
Alors, je pense que la brièveté, dans la mesure, enfin, la brièveté d'un séjour quelque part, ou d'une séquence, d'un moment passé sur un terrain particulier, en fonction de ce qui s'y passe, je veux dire, la matière va mériter elle-même d'être racontée, d'être mise en valeur et d'être rapportée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a la possibilité de passer 3 heures dans un endroit comme celui-ci, dans une prison comme celle-là, avec donc ces prisonniers de l'État islamique qui sont en train de qui sont dans un mouroir, je veux dire, c'est quelque chose qui, par la gravité de ce qui s'y passe, par la dureté de ce qui s'y passe, mérite qu'on y consacre de la place dans un journal, mérite qu'on en fasse un article qui soit long, une forme longue. Et il y a toujours des choses à dire. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu raconter. 4 heures dans une prison, dans ces circonstances-là, ça peut faire l'objet d'un écrit qui est beaucoup plus long que celui d'un article de presse.
Ça veut dire que dans ton dialogue avec les autorités du journal, les éditeurs, entre guillemets, il faut batailler un peu et faire valoir.
Je pense que là, pour le coup, la nature
du sujet,
faisait qu'une certaine longueur s'imposait.
Ouais.
Mais cette longueur aussi ne devait pas être excessive.
Ouais.
Parce qu'il fallait que ce soit. Il y a ce juste équilibre à trouver. On a un sujet qui est extrêmement fort, sur lequel qui mériterait qu'on écrive davantage dessus.
Et puis il y a la photo.
Il y a la photo, évidemment. Et là, pour ma partie qui est l'écrit, il y avait un certain format qui convenait, parce qu'il fallait à la fois apporter beaucoup de descriptions pour donner à sentir, donner à vivre, donner à comprendre et à voir ce qui se passait dans cette prison. Insérer là-dedans les termes politiques de la question, à savoir c'est une prison dans laquelle on se débarrasse d'individus qu'on juge indésirables au mépris des principes qu'on prétend défendre. Voilà. Et il fallait ensuite essayer d'avoir une position relativement engagée sur le sujet, en faisant comprendre que à la fin de cette guerre contre l'État islamique avait imposé ses propres valeurs et les avait imposées à nous qui prétendions défendre des valeurs autres que les leurs. Donc ça, c'était, il y avait plusieurs données, plusieurs paramètres. Donc ces paramètres-là, pour être efficaces, il faut qu'ils soient quand même relativement ramassés. Il y a un équilibre à trouver entre le fait de faire comprendre tout ça. Et donc, pour faire comprendre tout ça, avoir un peu l'espace pour le dire et pour le décrire, et en même temps que ce ne soit pas quelque chose qui décourage une lecture sur le vif et d'un seul trait chez le lecteur.
Le lecteur. Alors, si tu veux, on va continuer en prenant justement au bon un mot que tu as lancé, qui est l'engagement. une forme de dénonciation, après tout. Et Dieu sait si Albert Londres a pratiqué la dénonciation, l'engagement, le journalisme offensif à partir des années 20. Et pour continuer ce même texte, on va voir de quelle manière, un peu comme toi, il évolue vers la dénonciation après être parti du constat sensible.
Et ce texte en Aubagne.
Exactement. Ce n'est pas un camp de travailleurs, c'est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane où l'on jette des hommes qui n'en remonteront plus. 24 kilomètres dans ces conditions-là, mais c'est magnifique en 60 ans. Dans 4 siècles, nous aurons probablement réuni à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, et ce sera plus magnifique encore. Ça, c'est de l'ironie. Pourtant, la question serait de savoir, et voilà où ça bascule, si l'on veut faire une route ou si l'on veut faire crever des individus. Si c'est pour faire crever des individus, ne changez rien, tout va bien. Si c'est pour faire une route, d'abord, ils ne mangent pas à leur faim, aucun forçat ne mange à sa faim, mais les autres ne font rien. Ceux-là, le temps de souffler, n'en ont rien à faire. Toi, tu vas mettre l'accent d'une même manière par ton interpellation à la chute de ton papier, même un peu avant. Hein ? Alors, je vais essayer de retrouver les choses. Tu parles d'une explosion qui n'a pas encore explosé, une déflagration lente. La déflagration lente a déjà peut-être commencé. Elle n'est pas seulement liée au risque sécuritaire de voir disparaître dans la nature les mutilés du califat, ceux que tu as vus. Elle est plus insidieuse, silencieuse. L'inhumanité qui règne entre les murs de la prison est dépourvue de cruauté ou de haine. Elle semble être le résultat implacable d'une décision politique, celle de confier à un groupe armé dont les priorités sont autres une charge dont on ne veut pas et qui n'a d'autre choix que de laisser mourir à petit feu un problème que l'on ne veut pas résoudre. Elle est en définitive le produit de la décision de ne pas répondre au défi lancé par l'État islamique à l'État de droit. Entre les murs de la prison où sont enfermés les derniers sujets de son règne criminel, le long de ses mouroirs verrouillés, avec chaque tunique orange, car ils sont habillés de ces tuniques, chaque corps estropié, le califat a réussi dans sa chute à imposer son monde. Donc tu veux dire que nous nous comportons comme eux.
Je veux dire qu'il y a une contamination,
oui,
si tu veux, du monde que représente l'État islamique vers le nôtre. Et que cette contamination, elle se fait, si tu veux, par la peur qu'ils ont produit chez nous.
Ah oui.
Par l'effroi,
oui,
qu'ils ont produit chez nous.
Oui.
On est en pleine période des procès
du
13 novembre.
Du Bataclan.
Alors là, on voit que lorsque les procès ont lieu à Paris,
oui,
avec des suspects qui sont accessibles et présents, eh bien, l'État de droit se montre et tente d'exister, tente de fonctionner.
Et eux ont leur parole de combattant, d'ailleurs, hein, comme Abdeslam en ce moment.
Oui, exactement. En revanche, cette entreprise ne peut, à mon sens, qu'être incomplète si, à l'abri des regards, à part, dans ce cas-là, quelques heures pour quelques journalistes, enfin deux journalistes, moi et Laurent Zé, si à l'abri des regards, eh bien, on laisse se faire une injustice se faire un déni en fait de justice pour les victimes, qui correspond à ce que à cet état, je veux dire, de rapport de force pur dans lequel eux sont.
Tu veux dire un non-travail de justice?
Oui, un non-travail de justice dans le sens voilà qui est représenté par cette prison. Et ce que j'essaye de dire à la fin de ce reportage, c'est que il y a une forme de défi qui est lancé, comme c'est écrit à l'état de droit par l'État islamique,
oui.
Parce qu'il y a un refus politique de faire venir les responsables, par exemple français, belges, qui sont dans cette prison, européens, etc., pour qu'ils répondent de leurs actes, qu'ils répondent de leur appartenance à cette organisation terroriste. Et ce refus-là, il tient au fait que... dans la mesure où ils auront accès à la justice, à notre justice, ils risqueraient finalement d'être, de disparaître, enfin voilà, qu'il y ait des situations de non-lieu, ou des situations de, ou une absence de preuves, ou une absence de, ou en tout cas des difficultés qui seraient liées, ben, justement aux subtilités de notre système judiciaire, qui fassent qu'ils échappent à la peine, et donc on préfère effectivement qu'ils disparaissent dans ces conditions-là. Sauf qu'en faisant ça, à notre tour, on alimente un récit d'oppression, on alimente un récit d'injustice qui va pouvoir leur être utile à l'avenir et qu'ils ont déjà, en quelque sorte, utilisé dans leurs médias de propagande et ainsi de suite, en diffusant cette idée selon laquelle voilà, il y avait les principes dont nous prévalions n'existaient plus lorsqu'il s'agissait de ces prisons.
Oui, d'ailleurs, Abdeslam dit encore qu'il est traité comme un chien dans les prisons françaises et autres. Alors, à côté de ce papier, il y en a un autre, il y a un portrait de Mourad.
C'est un nom d'emprunt, je le précise, dans la mesure où mineur, il était souhaitable qu'il ne donne pas qu'on ne publie pas son identité véritable, en tout cas à ce stade-là.
Et quelle est la fonction du portrait émaillé de beaucoup de citations de sa part à proximité du papier que tu as écrit ?
Alors, je pense que cette fonction, elle est d'abord elle est double en fait. La première, c'est qu'il y a un papier général qui décrit une situation, en tout cas dans cette prison, et permet d'extrapoler sur la question de la gestion de ces prisonniers par nos gouvernements. Et il y a la nécessité d'avoir un destin particulier qui soit celui d'un destin de prisonnier. D'une biographie, d'une généalogie, des prisonniers dont le sort est évoqué dans l'article principal, parce que ça permet effectivement de mieux comprendre une trajectoire, d'un point de vue de l'information, tout simplement, de comment ces types-là en sont arrivés là, comment ils ont été attrapés, comment ils ont été emprisonnés, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme acte. Et donc, en fait, toute cette trajectoire, en fait, presque historique et biographique qui a abouti à ce moment-là. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est qu'il s'agit d'un prisonnier, pour le coup, français.
Oui.
Et donc, tout le but de ce papier est de raconter, en fait, de cet ensemble de papiers, de cet ensemble de reportages, et de raconter que ce qui se passe dans ces prisons nous concerne directement, non seulement parce que nous sommes en guerre contre l'État islamique, non seulement parce que nous sommes partis au système qui rend ces prisons, l'existence de ces prisons possible, mais aussi parce qu'il y a des gens qui portent la même nationalité que nous et qui ont le même passeport que nous, qui sont emprisonnés sur place et dans ces conditions-là, et qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils... Est-ce qu'ils soient jugés à leur tour par la justice française.
Tu ajustes ton interpellation, si j'ose dire, via le portrait de Mourad.
Voilà, via le portrait de ce jeune Français, effectivement, qui est emprisonné là. Et il y a un troisième élément, c'est que ce jeune Français-là, il est arrivé, comme beaucoup d'autres jeunes Français, jeunes Françaises, dans les territoires de l'État islamique lorsqu'il était mineur. Et quoi qu'il ait commis par la suite ou qu'il n'ait pas commis comme crime, eh bien, il n'a pas choisi d'être là. Bon, il a été entraîné, embrigadé, enlevé en quelque sorte par sa propre famille à son existence ordinaire de jeune homme, de jeune adolescent français. Il a à peine 18 ans au moment où on le rencontre. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi là une vraie question. Il y a quelque chose où la condition de ces mineurs, de ces personnes mineures qui sont été prises mineures, qui ne peuvent pas être considérées comme ayant de leur plein gré rejoint le territoire du califat, parce qu'ils ont été embrigadés par leur famille, ouais. parce qu'ils ont été enlevés, et ainsi de suite, eh bien, on refuse aussi de l'avoir. Mmh. Et que ce morad est l'exemple même de ce qui embarrasse oui. l'état de droit français. Mmh. Parce que, un, il est là, mais il n'a pas choisi de l'être. Mmh. Deux, il est français et pourtant on le laisse en Syrie alors qu'a priori on aurait le devoir de le rapatrier, que ce soit pour le juger ou pour autre chose, mais en tout cas de ne pas le laisser dans ces circonstances-là. Et donc du coup, pour ces deux raisons-là, il est vraiment dans la zone d'ombre, dans la zone grise, dans la zone où justement l'état de droit français rencontre le monde du rapport de force et, on va dire, des ténèbres que veut nous imposer l'État islamique. Ça veut dire que, et, donc, et ensuite, parce que c'est un destin d'une personne qui est jeune et qui a donc, dont on peut supposer qu'elle a la force de survivre encore bien des années, malgré les circonstances terribles dans lesquelles les prisonniers qui sont enfermés là vivent. Et donc, du coup, la question de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir de cette génération-là qui a oui. été emmenée en Syrie, qui a grandi en Syrie, et qu'est-ce que serait que l'avenir des plus jeunes encore que lui, parce qu'il y en a qui ont 12, 13 ans, voire moins, oui. 8, 9 ans. Et donc, il y a une enfance française, il y a une jeunesse française qui a été emmenée là et dont on ne veut pas qu'elle revienne. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi ? Et donc, là, c'est que des questions ouvertes. C'est notre rôle, je pense, en tant que journaliste, pour le coup, de les poser.
Pour le coup, tu as mis la plume dans la plaie des questions terribles. En plus, sa trajectoire est une succession de tragédies. C'est une chose absolument épouvantable. C'est un chaos. Et lui-même est dans un désarroi absolu. Et donc, il y a quelque chose de très fort, là aussi, dans le portrait, qui est à la hauteur de l'autre papier. Quand est-ce que tu as décidé de faire ce portrait qui viendrait jouxter le papier ? Est-ce que c'était dans la voiture qui te raccompagnait à l'hôtel ? Est-ce que c'est au moment où tu as commencé le grand papier ? Tu t'es dit, j'ai pu parler longuement avec ce jeune Français, je vais lui faire un sort, entre guillemets, particulier.
Alors là, il y a effectivement deux choses que je voudrais préciser.
Oui.
Et la première me paraît particulièrement importante, c'est que effectivement, on valorise la figure du reporter,
oui.
on valorise la figure du journaliste ou de la journaliste, mais tout reportage est un travail collectif. Ça veut dire que, certes, il y a un regard et une écriture qui est au centre, ou un regard et une photographie qui est au centre, en l'occurrence pour Laurence Jay, puisqu'à mon sens, le travail qu'elle a fourni et celui que j'ai tenté de faire ne sont pas dissociables. En l'occurrence, je pense que les images comme les mots choisis travaillent ensemble comme deux engrenages pour ce papier en particulier. Et donc, on valorise le travail individuel, la signature d'Alan Cavade, de Laurence Jay ou de n'importe quel photographe ou de n'importe quel journaliste. Mais derrière, il y a une armée de gens. D'abord, en amont, il y a souvent un chauffeur, tout simplement.
Oui.
Il y a un traducteur fixeur, quelqu'un oui. qui va vous aider à avoir les rendez-vous, à avoir les accès, qui va faire un travail de traduction avec vous qui va être essentiel déjà en amont et puis après en aval. Il y a bien évidemment le chef de service qui va arbitrer certaines décisions. Il y a ensuite l'éditeur ou l'éditrice qui va contribuer à rendre le texte harmonieux, à effacer les éventuelles coquilles avec le correcteur. Il y a les gens qui vont mettre en page le truc. Il y a les iconographes qui vont choisir les photos. Voilà. Donc c'est vraiment un travail collectif autour d'une voix centrale, on va dire, qu'elle soit photographique ou
la titraille est de toi ou...
Non, la titraille, exactement, c'est pareil. Ce sont les éditeurs et les éditrices et les rédacteurs en chef qui s'en occupent. Et donc, il y a vraiment cette travail collectif. Pourquoi est-ce que j'explique ça ? C'est qu'en fait, quand je rentre de mon reportage, avant de me mettre à l'écriture, je vais évidemment avoir une conversation Là, en l'occurrence, j'avais la possibilité de l'avoir, j'avais du réseau, j'avais l'accès à Internet, en rentrant là où j'étais, un peu précaire, mais quand même, de parler au moins avec quelqu'un et de voir, voilà, à ton avis, est-ce qu'on fait ça séparé ou est-ce qu'on l'intègre dedans ? Et là, effectivement, il y a une discussion et une décision qui est prise en commun, un arbitrage qui est trouvé par la personne, et donc du coup, on décide de faire ça, de cette manière.
De dissocier. De
dissocier. Alors après, si j'avais eu le sentiment absolu qu'il ne fallait pas dissocier, j'aurais pu le faire valoir. Si au contraire, le chef de service ce jour-là, Alain Salle, en l'occurrence, avait la possibilité, avait souhaité vraiment, pensait vraiment qu'il fallait faire un papier unique, il aurait pu me convaincre. Et donc, voilà, il y a cette c'est pour ça que c'est pour moi que c'est important aussi de rentrer un petit peu dans la machine, dans la fabrique du journalisme. Ça, c'est le premier aspect. Pourquoi est-ce qu'on choisit de dissocier ? Comment est-ce qu'on choisit de dissocier ? Ensuite, pourquoi ? Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense, en tout cas, ça c'est moi personnellement, mais je pense que beaucoup de mes collègues le partagent cet avis, mais je pense que dans le reportage, aussi loin qu'on aille, mais alors surtout dans un sujet comme ça qui nous concerne directement, il faut faire advenir une forme de familiarité. Il faut d'un réel qui paraît extrêmement lointain, extrêmement haut, tout à fait autre, un ailleurs, un tout autre, qui est l'enfer de cette prison, il faut montrer que c'est dans le même monde que le lecteur. Je pense que notre rôle, c'est pas de faire de l'exotisme, c'est pas de faire rêver à un ailleurs, c'est pas de décrire une réalité complètement autre, c'est au contraire d'aller chercher dans une réalité qui, a priori, paraît étrangère, des éléments de familiarité. C'est de rappeler au lecteur qu'il vit dans le même monde que cette prison, qu'il est lui aussi dans la prison, mais à sa manière. Et c'est pour ça
que tu utilises
qu'on dissocie le personnage qui va permettre aussi d'apporter cette familiarité-là.
D'accord.
Parce que pour celles et ceux qui le souhaitent et qui pourront le lire après la rencontre, ou qu'ils l'auraient peut-être déjà lu et qu'ils ne l'ont pas nécessairement en tête, on parle d'une enfance française.
Et oui.
On parle d'un gamin qui est né à Roubaix, qui est allé à la bibliothèque de Roubaix, qui a emprunté des bouquins, qui a été à l'école, qui a eu une enfance tout à fait semblable à celles et ceux de sa génération, et qui ensuite s'est perdu et s'est abîmé dans la guerre et l'horreur. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de faire cette distinction. D'abord parce qu'on décide à plusieurs, et que c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est quoi, pourquoi on l'a fait ou comment on l'a fait. Et ensuite, la vraie raison derrière aussi de fond, c'est aussi d'isoler l'endroit où la familiarité peut apparaître de la manière la plus précise possible, parlante possible.
Oui, je trouve cette idée de familiarité importante parce que c'est cultiver une proximité du propos avec le lecteur. Et c'est le fait de le concerner, de le happer, de le faire rentrer dans l'histoire, à la fois petit h et grand h. Et ça, c'est une préoccupation permanente chez le reporter, non ?
Je pense, oui, je pense. Après, il y a certains récits de reportages qui, eux-mêmes, s'inscrivent dans une certaine tradition, peut-être un petit peu exotisante.
À quoi tu penses
des choses. Là, je peux pas te dire directement des noms, machin, mais il y a quand même, voilà, je trouve qu'il peut y avoir une légère tendance à s'inscrire dans une certaine veine, si tu veux, d'un reportage de guerre, d'aventure, de la description, si tu veux, de culture lointaine, de pays lointains et mystérieux. J'en ai des exemples en tête, mais je pense pas que ce soit mon rôle de donner des noms et de faire des listes.
Tu as toujours été un gentil confrère.
Il y a cette tradition-là qui existe, je veux dire, et qui pousse la guerre et qui pousse l'horreur, ou qui pousse le réel vers une forme d'ailleurs qui est presque plaisant. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de plaire, c'est pas de passer un bon moment. C'est pas de faire passer un bon moment quand on écrit un reportage, surtout pas dans des circonstances pareilles. Au contraire, c'est d'interroger, c'est de mettre peut-être mal à l'aise, de faire réfléchir, d'amener, aussi bien on amène la réalité parfois terrible qu'on décrit vers l'autre, il faut, vers le lecteur en l'occurrence, ou la lectrice, il faut amener le lecteur vers cette réalité aussi, lui dire qu'il lui appartient à cette réalité, qu'elle n'est pas autre, qu'il est lui-même encore une fois dans la prison, qui lui-même sur le champ de bataille, ou que ceux qui vivent la bataille en question ou la situation qu'on décrit ne sont pas simplement de lointaines femmes voilées ou de lointains hommes barbus et moustachus, ce sont des parents, des grands-parents, des enfants aussi, comme les vôtres. Voilà. Et que la photo de mariage qui apparaît, comme je le disais tout à l'heure, à travers le trou d'obus sur la façade de la maison, ça aurait pu être la leur. Et que l'enfant, avant de se prendre la roquette, peut-être qu'il joue au même jeu vidéo sur le téléphone portable de ses parents que celui du lecteur. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de dire les sempiternels mêmes Kurdes, les sempiternels mêmes Irakiens et Syriens se font tirer dessus de la même manière depuis toujours, et puis de toute façon, oui, c'est un peu dans leur culture, et puis ils l'ont un peu cherché.
Oui, oui.
C'est pas ça juste le but de raconter. C'est pas ça le but du journalisme.
Oui. Précisément, est-ce qu'il y a un après-coup de ça ? D'abord pour toi, ce sont souvent des questions qui se posent sur comment est-ce que le reporter qui voit, qui est toujours là où il y a des sales trucs qui se passent, quoi. Comment il garde un équilibre ? Parfois, dans sa chair, il est blessé. Comment ça se passe, ça ? Et puis aussi, surtout, comment les gens qu'il a croisés, est-ce qu'ils sont derrière ou est-ce qu'ils continuent ? Est-ce que parfois on peut garder des relations, s'interroger, repasser un coup de téléphone ? C'est quoi l'après de ce genre de papier ?
Alors, il peut y avoir des relations qui sont tissées.
Oui.
Que ce soit avec les anonymes qui vous permettent de faire votre travail, qui sont le fixeur, la fixeuse, le chauffeur, des gens qu'on va essayer de suivre, qu'on va essayer d'aider quand c'est possible, parce qu'on a loué cette relation à la fois professionnelle et amicale et personnelle. Ce n'est pas mon cas, mais aujourd'hui, avec la chute, moi je n'ai jamais travaillé en Afghanistan, mais avec la chute de Kaboul, nombre de collègues ont été confrontés à des situations. Il a fallu qu'ils puissent aider ceux qui avaient travaillé avec eux et qui les avaient aidés.
Absolument.
Et donc d'essayer de rendre service de la manière dont on peut. Donc ça c'est quelque chose, effectivement, tout ce qui appartient en fait à nos collègues anonymes du terrain, qui sont rarement crédités, soit parce qu'on ne le fait pas, soit par convention, soit parce que ce serait dangereux pour eux, et elles, de toute manière, eh bien, y a forcément des relations qui se maintiennent, surtout si on revient régulièrement dans la même zone. Avec les sources, les interlocuteurs, les personnes qu'on a rencontrées, ça peut exister aussi, en fonction d'affinité parfois. Mais il y a une autre manière, en fait, par laquelle il y a un après du reportage, c'est qu'en fait, à mon sens, chaque reportage qu'un journaliste ou qu'une journaliste fait, quelle que soit la zone, est finalement la partie émergée de tous les reportages qu'il ou elle a pu faire au cours depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que là, je viens de terminer un reportage à Paris, à Belleville. Alors, ça peut paraître extrêmement familier, mais justement, quand c'est familier, il faut apporter une dose d'étrangeté. Dans une logique qui est similaire à ce que je racontais tout à l'heure sur la Syrie. Et je sais que ce reportage, il est la suite de tous les reportages que j'ai pu faire en Turquie, en Syrie, en Irak ou ailleurs. Parce qu'il y a une pratique qui s'apprend. Parce qu'il y a un regard qui s'aiguise et qui permet justement d'avoir un rapport aux choses proches et à des choses différentes qui est propre, qui est le vôtre et qui est nourri par cette
pratique. Par rapport au récit, à l'art du récit.
Pareil, par rapport au récit, c'est le même principe. On est toujours en train de remettre en fait de remettre le boulot enfin sur une sorte de base qui est construite avec toutes les rencontres qu'on a pu faire, même si on les a oubliées, tous les paysages qu'on a pu voir, même si on les a oubliés, toutes les interrogations qu'on a pu avoir, même si elles nous paraissent très lointaines, voire même si elles s'effacent. Et c'est comme ça qu'on aborde à chaque fois de manière renouvelée et toujours un tout petit peu plus profonde le réel.
Je te remercie beaucoup.
Merci à toi et merci surtout à vous.
Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors, quand on est sûr qu'il y a plein de questions, c'est qu'en général, il n'y en a pas beaucoup. au moins dans un premier temps. Est-ce que vous êtes... Oui.
Oui, j'arrive.
Ça marche. Je suis récemment diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris.
Bravo.
Merci. Vous faites partie un peu de nos modèles. Je voulais savoir, notamment dans le reportage dans la prison, quand on apprend à faire du reportage, on nous dit de faire de la description. Et on commence souvent par soit les visages, et vous le faites un peu après quand vous parlez des yeux globuleux, des corps très amaigris, des gens qui sont blessés, etc. Mais vous commencez par l'odeur, et c'est quelque chose que on n'a pas. Naturellement, on se tourne pas forcément tout de suite vers ça. Et là, je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi ça. Est-ce que c'est parce que ça vous a tout de suite étreint et en fait, c'est ce que vous vouliez raconter? Ou est-ce que c'était un choix réfléchi, ou est-ce que c'est vraiment un truc naturel qui vous a sauté au nez et qui a fait que vous l'avez raconté comme ça, quoi?
Merci beaucoup pour votre question. Alors, en l'occurrence, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment eu ce choc sensible qui a pris plusieurs chemins, en quelque sorte. Mais je dois dire qu'il a été effectivement plus fort lorsque la porte s'est ouverte et qu'il y a eu... c'est ce choc émotionnel, quoi. Et pour moi, c'est le souvenir que j'en gardais au moment de l'écriture, c'était cette odeur qui était encore sur mes vêtements, qui était encore l'odeur de la prison, quelque chose qui m'avait accompagné, en fait. Et c'est ça qui était avec moi, en fait, physiquement, au moment de l'écriture. Parce qu'elle avait, pour rentrer dans un détail, mais là, on est vraiment dans la fabrique presque matérielle du journalisme, c'est que mes vêtements étaient imprégnés de cette odeur. Et donc je l'avais encore sur moi au moment de l'écriture. Et donc c'est pas forcément réfléchi. C'est juste que là, j'étais dans un moment d'écriture qui allait puiser dans vraiment l'émotionnel d'abord. Pour rentrer dans le sujet, il fallait que je trouve les mots à mettre sur l'état émotionnel dans lequel je me trouvais, ou sensoriel dans lequel je me trouvais. Et cet état était profondément imprégné par justement cette odeur de désespoir que je portais sur moi, pour le coup. Donc là on est vraiment effectivement dans ce rapport sensoriel, en fait, au reportage. Donc ça s'est imposé, en réalité.
Oui, et puis ce qui s'est imposé, c'est que c'était le parfum de la mort, quoi.
Oui, c'était même plus que ça.
Ouais.
C'est l'odeur du désespoir, parce que la mort,
c'est fini.
C'est fini, et donc voilà, là, c'est quelque chose qui est en cours. Donc ouais. C'est quelque chose qui est effectivement beaucoup plus, sans doute, qui interroge encore davantage.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est pas juste les résultats d'une violence, c'est une violence en cours, une violence lente. Voilà. On est le témoin d'une agonie. C'est pas pareil que de revoir un cadavre.
Certes.
Oui, bonjour. Donc, Benoît Drevet, moi aussi, je suis passé par le journalisme. Maintenant, je travaille sur l'Irak. Et du coup, ça m'intéresse particulièrement. Je voulais savoir quel rapport vous avez pu avoir avec les prisonniers. Parce que j'imagine qu'ils sont pas forcément tous, ils n'étaient pas forcément tous pour parler à un journaliste qui représente la presse française. Est-ce que potentiellement certains pouvaient se mettre aussi en danger en parlant avec vous au sein même de la prison? Et comment ça s'est passé aussi par rapport aux gardiens qui vous accompagnaient? Est-ce qu'on les a un peu forcés à parler, ou est-ce qu'ils venaient vers vous? Voilà.
Alors, pour ce qui est... je vais commencer par les gardiens, parce que c'est une problématique, je pense, particulièrement importante à plusieurs registres. C'est que, il y a des gardiens qui vous parlent, qui ont un récit à faire passer, qui est un récit qui s'inscrit dans un rapport de force politique précis que j'ai rappelé au début de l'intervention. Il y a des gardiens dont on peut éventuellement obtenir quelque chose de plus humain. Mais surtout, il y a des gardiens dont il faut vite, vite se séparer. C'est-à-dire que quand on parle avec les prisonniers, il faut vraiment faire attention à ce que les gardiens n'écoutent pas. Et ça rejoint un peu la première question sur les dangers auxquels ils s'exposeraient éventuellement. C'est qu'il y a évidemment, au moment du reportage, cette vigilance à avoir faire en sorte que le gardien ne soit pas à portée d'oreille, soit pas à portée d'écouter en fait ce que le prisonnier va vous dire, ne serait-ce que parce que ça pourrait retomber sur le prisonnier, et puis aussi pour y avoir un minimum d'éventuellement de confiance avec l'interlocuteur. Rien n'est parfait, on est dans une prison. C'est pas une parole qui peut être considérée comme parfaitement libre, mais cette parole vaut le coup d'être entendue parce qu'elle va pouvoir nous éclairer sur certains aspects, sur certaines choses, sur une expérience humaine qui est en train de se dérouler devant vous, et la parole du prisonnier n'est pas la seule manière qui vous permet de la décrire. Ensuite, sur les prisonniers et leur éventuelle hostilité, là en l'occurrence, je pense que dans les données précises de ce reportage, c'est des gens qui sont tellement coupés du monde. Il faut savoir qu'on avait appris la mort d'Al-Baghdadi quelques jours auparavant, ils n'étaient pas au courant vraisemblablement. Et donc, c'est aussi une question de ce qu'on peut leur dire ou pas. Tellement coupés du monde, tellement loin de ce qui se passe à l'extérieur des murs de cette prison, que toute présence extérieure va être relativement bien accueillie. Et par ailleurs, chaque membre de l'État islamique n'est pas un idéologue absolu. Il y a aussi des individus qui sont tombés là, un peu là-dedans, qui sont laissés emporter. Enfin, c'est des personnes qui évoluent. C'est pas des monolithes, qui incarnent éternellement une figure du mal absolu. Sont aussi des personnes qui peuvent être à la recherche d'un dialogue, d'une parole autre, d'une information vaguement sur le jour de la semaine qu'on est, sur ce qui se passe à peu près à l'extérieur, et qui ont surtout envie que quelque chose peut-être d'eux sorte, une image, une parole. Et donc du coup, il y a une relation qui est très étrange, certes, qui est qui est très très loin des relations qu'on a normalement avec des interlocuteurs qu'on peut rencontrer lors de reportages, mais qui se fait, quoi. N'hésitez pas à relancer si vous pensez que j'ai pas répondu à la question de manière suffisamment précise.
C'était quand même, la réponse était assez précise. Maintenant, peut-être c'était plus un état d'esprit général dans la prison, je veux dire. Je dis pas que c'est des monolithes du tout, hein, loin de moi l'idée de juger ces personnes. Mais comme ce sont tous, a priori, dans la prison, des gens de Daesh, c'est bien ça, hein, ils étaient, voilà.
Oui, absolument. Voilà. Ou alors des enfants qui avaient été emmenés là par leurs parents, eux-mêmes membres de l'État islamique.
Voilà, et donc du coup, ça peut peut-être créer un peu une sorte d'atmosphère, comme on a pu voir aussi dans certains camps de femmes aussi, je crois que c'est Hal-Hal, il me semble, où il y a des clans qui se forment, où potentiellement certaines personnes peuvent vouloir martyriser d'autres personnes si elles ne pensent pas exactement comme ça. C'était plus dans ce sens-là, en fait, ma question.
Je comprends, et là, pour le coup, je n'ai pas ressenti ça, et je pense que c'est lié au fait que ces personnes soient vraiment écrasées dans la prison par un système déshumanisant de fait, et qui n'a même pas la vigueur nécessaire pour pouvoir aussi apporter ce que vous décrivez comme ces réactions d'hostilité un peu organisées dans le camp de Al-Hol, où là il y a vraiment l'État islamique perdure avec ses structures dans une certaine mesure, et voilà. Et après, il y a dans le papier un moment où effectivement, je sais que je marche dans l'allée centrale, entre guillemets, de la salle où se trouvent les malades, qui est un peu plus grande que, voilà, une sorte de hangar, quoi, qui est un peu plus grand que cette salle de conférence. Et je me rends compte que je marche parmi ces hommes qui sont pieds nus avec des bottes que j'ai acheté dans un surplus militaire à Paris avant de venir, parce que j'avais pas de chaussures qui correspondaient à des champs de bataille que je m'apprêtais à rejoindre. Et là, j'ai ressenti effectivement une forme de d'interrogation, une forme de honte, une forme de dégoût aussi. Est-ce que avec ces bottes-là, je suis pas justement du côté des gardiens? Est-ce que je suis pas moi-même un gardien quelque part? Où est-ce que je suis par rapport à ces hommes dont je prétends relayer l'expérience humaine? Et c'est quoi ma place? C'est des questions qui sont sans réponse pour l'instant. Et la seule réponse que j'ai pu faire, c'est d'essayer de raconter de la manière la plus honnête possible ce que je percevais de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et je me souviens d'une scène très forte, pour le coup, de, que j'ai pu voir à ce moment-là, et c'est que ma collègue Laurence, qui devait prendre des photos, et là on arrive à un autre degré encore du rapport à l'autre, a enlevé ses chaussures pour s'approcher le plus près possible parce qu'elle ne supportait pas cette espèce de... Comment dire, de mur en fait qui avait invisible, qui avait autour de nous quoi, qui était incarné par ces appareils, par ces objets, par ces trucs,
les attributs
exactement, qui vont être ceux du journaliste comme en fait ceux du militaire parfois, comme ceux de celui qui surveille l'image, l'objectif, la photo, le carnet, la question. On est où? Est-ce qu'on est nous aussi des bourreaux, des gardiens? Est-ce qu'on est là pour est-ce qu'on est les gardiens de cette espèce de prison globale? Est-ce que nous aussi, autour de nous, il y a une sorte de frontière invisible qu'on trimballe avec nous? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va chercher le visage de l'autre? Où est-ce qu'on va chercher la parole authentique de l'autre, l'expérience de l'autre? Comment est-ce qu'on se montre soi-même à nu pour pouvoir recueillir cette parole et ne pas justement faire partie du système qui les écrase? Ça, c'est des questions qui vous traversent en permanence dans ces circonstances-là et qui restent en partie sans réponse. Et la seule réponse à peu près qu'on a pu donner avec Laurence, c'est de faire ce reportage, en fait.
D'autres
questions? Je crois que madame, vous aviez peut-être une question tout à l'heure. Pardon.
Monsieur.
Ah, d'accord, ok. Bonsoir, merci. Cette question peut-être moins sur le travail journalistique lui-même que sur la situation par rapport au camp, enfin par rapport au lieu. En fait, où on en est en ce moment? Parce que on n'entend plus vraiment parler. Bon, il se trouve que je suis souvent sur Genève, que le CICR alerte tous les 2-3 mois pour rappeler aux Occidentaux que la situation est présente, parce que je crois qu'ils visitent de temps en temps ce type d'installation. Mais où est-ce qu'on en est? On est toujours dans le même flou. Est-ce que les États européens pratiquent toujours la politique de l'autruche en se disant on verra bien comment on procède, puis de toute façon on a d'autres urgences, et puis comme le focus médiatique s'est déplacé ailleurs, tant mieux. Enfin, pardon de dire ça comme ça, mais enfin voilà.
Non, je pense que vous avez vous-même assez bien résumé la situation. L'attention médiatique s'est déplacée. Il y a une volonté de ne rien faire, en tout cas en France, avant l'élection présidentielle, parce qu'évidemment, encore une fois, ce qui se passe là-bas a tout à fait partie liée avec les débats, les crispations qu'on peut avoir ici, et qu'il y a des enjeux électoraux et une vision électoraliste de la politique qui fait qu'on en arrive à ces situations-là. Après, je distinguerais peut-être la question des prisonniers par nationalité. Je pense qu'il y a effectivement, dans certains cas, la possibilité pour certains pays qui ont déjà montré qu'ils pouvaient rapatrier certains de leurs prisonniers, de leurs ressortissants en prison. Et encore, je distinguerais la situation des prisonniers de celles et ceux qui sont, des enfants et des mères de famille qui sont dans les camps déplacés, qui est encore différente. Globalement, on en est toujours à peu près au même point. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de... Enfin, en tout cas, je parle de la France. Hein. Il y a des pays comme la Belgique, d'autres pays en Europe qui commencent à avoir des approches un peu plus globales sur la question des camps, la présence des femmes et des enfants dans ces camps, sans parler des prisonniers. Mais en France, on en reste à peu près au même point, de ce que j'en sais. Après, il faut que je sois parfaitement honnête avec vous pour vous dire que ce n'est pas une situation que j'ai continué à suivre de manière extrêmement précise, dans le sens où, effectivement, j'ai cessé mon activité professionnelle du fait d'un certain nombre d'opérations liées à cette même activité professionnelle, et que donc j'ai pas pu avoir un suivi très très précis de ce qui s'est passé récemment en la matière. Et surtout, je ne travaille plus sur ce sujet-là.
Ouais. Une question?
Bonsoir.
Une dernière?
Ouais, j'ai deux questions, si c'est possible. Oui. Mais
allez-y.
C'est pas... pour revenir à ce que vous disiez sur la prison et sur ce mur que vous décriviez, je voulais prolonger et vous demander, dans ce cas-là, pour vous, pour Laurent Gey, ça a été d'enlever ses chaussures, peut-être. Pour vous, ça a été quoi la première question?
Pardon? Et
pour vous, ça a été quoi la première question ou la première personne que vous avez interrogée? Comment est-ce que vous arrivez à... Est-ce que vous... Vous excusez d'être là? Est-ce que vous commencez directement dans le vif du sujet? Et la deuxième question, ce serait, vous parliez de littérature tout à l'heure. Alors à vous lire, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que vous avez des livres ou des auteurs qui vous accompagnent plus que d'autres en reportage depuis ce coin de table à Paris.
Alors, pardon, les tout derniers mots que vous avez prononcés, j'ai pas bien entendu. Tout dernier mot.
Le tout dernier mot.
Ouais, vous avez dit, excusez-moi, s'il y a des auteurs, des œuvres en particulier.
Ouais, qui vous accompagnent depuis ce coin de table que vous décriviez lors de votre premier reportage.
Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Alors, sur la première question, c'était, en ce qui me concerne, d'essayer d'aller chercher des regards. D'aller chercher des visages, en fait, sur des faces, sur des gens qu'on ne regardait pas. C'est-à-dire que l'idée, c'était de justement ne pas avoir un regard de gardien, mais d'avoir un regard de personne, quoi. Enfin, juste d'aller chercher un contact dans les yeux. Les yeux qui étaient souvent rentrés complètement. Des yeux qui étaient sans profond, presque ce qui paraissait, en tout cas, de mon point de vue, comme sans profondeur, comme si c'était simplement des yeux sur un visage et qui n'allaient pas. Chercher, comme s'ils étaient découpés de l'âme qu'il y avait derrière. Peut-être un petit peu, bon, c'est des termes peut-être qui peuvent paraître liés à une forme de religiosité ou de spiritualité, mais c'est un peu comme ça que j'ai ressenti les choses. Donc l'idée était de faire un contact avec un visage, avec des yeux, avec un regard. Et à partir de là, de lier, d'avoir un mouvement de visage, quoi, une expression, et là de lier quelque chose entre moi et la personne que j'avais en face de moi, la personne. Et donc ça c'était ça. Voilà un petit peu comment, avant de poser la question, avant de s'imposer dans l'espace, essayer de ne serait-ce que de lier ça. Ce qui dans n'importe quel contexte est coule de source, c'est une évidence absolue, mais dans le contexte carcéral, et dans ce contexte carcéral, là en particulier, est beaucoup plus difficile. En tout cas, et ouais. Bon, alors ça c'est pour la première question. Et ensuite sur la deuxième. Ce serait difficile à dire, mais je pense que si la question est de savoir s'il y a certains ouvrages qui me donnent envie de faire du journal, enfin, en tout cas qui m'accompagnent dans une réflexion sur l'écriture et sur l'écriture journalistique en particulier, je pense que là, ce qui me viendrait en tête, c'est Malaparte, c'est Caput, hein, en réalité. Alors même si, évidemment, on peut reprocher beaucoup de choses à Malaparte, dans le sens où la question lui fait, pour le coup, je pense, se dérange bien moins que moi. Mais je crois qu'il y a là des choses quelqu'un qui, par l'écriture, arrive à donner à voir une vérité, de la guerre en particulier. Ouais. C'est vraiment ce texte-là qui me vient à l'esprit, qui ne relève pas réellement du journalisme, mais qui est quand même, je pense, une écriture du réel. Donc il ne faut pas peut-être mélanger les deux. Ce n'est pas un ouvrage journalistique, ce n'est pas un reportage, mais je pense que c'est quelque chose qui peut aider, finalement, à comprendre comment les mots peuvent servir certaines émotions, certaines réalités, certaines horreurs. Voilà. Et puis après, là, c'est encore moins du reportage, et c'est encore moins de la littérature du réel, mais et c'est pas non plus quelque chose qu'on peut reproduire dans ces trucs-là, mais c'est quelque chose qui, je pense, est nécessaire d'avoir un petit peu en arrière du crâne. C'est la Divine Comédie de Dante, et en fait c'est l'Enfer de Dante en particulier, qui est pour moi, et je pense, une lecture qui est importante pour aborder la question de la description de l'horreur, de la violence, de la violence qui s'incarne dans les corps, enfin qui s'imprime dans les corps. Et alors évidemment, ça n'a rien à voir avec du journalisme, ça n'a rien à voir avec la littérature du réel, ce n'est pas du reportage, mais c'est à travers les siècles une expérience, un savoir-dire de la violence, voilà, qui je pense est très, très, très important, mais majeur même.
C'est un marqueur du récit de l'humanité, Dante. Et même notre ami Albert avait écrit un « Dante n'avait rien vu ».
Absolument.
Alors, si vous voulez, on va clôturer cet échange avec juste un petit texte qui vient d'un ami d'Albert Londe qui s'appelait Edouard Elsey. Et il se faisait passer pour un anglo-saxon. En fait, Elsey, ça voulait dire Louis Coulon. Et donc, Édouard Elsey était un simple Français, un pote d'Albert. Et quand Édouard Elsey a lu Albert, voilà ce qu'il écrit. Était-ce un reportage, une page d'histoire, un peu tout cela et mieux que tout cela. Un témoignage terriblement précis et simple et presque nu. d'autant plus saisissant. L'horreur, une juste et virile colère, je ne sais quel désarroi devant une si sauvage action, tous les froissements d'une sensibilité blessée, maîtresse d'elle-même, vibrait avec la plus touchante pudeur, sous le voile transparent de cette prose limpide, exacte, dépouillée. Oui, des larmes dans les yeux, je lus et je relus. C'était signé Alain Caval et lui dit Albert Londres. Je te remercie beaucoup, Alain.
Merci, Hervé. Merci à toutes et tous. Merci.
Je voulais juste signaler que les articles d'Alain Caval publiés dans Le Monde en octobre et novembre 2019 sont accessibles à la BPI. Vous êtes les bienvenus au bureau presse du niveau 2 et on vous aidera à les retrouver dans les bases de données. Vous pourrez lire également Dante et Malaparte. Donc voilà. Je remercie Alain Caval et Hervé Brusini pour cette soirée et le prix Albert Londres. Et à très bientôt, au mois de janvier, certainement de l'année prochaine, pour une nouvelle rencontre. Bonne soirée.
Merci. Merci à vous.